RFI, il est 16h à Paris, 14h à Conakry. Le journal avec Charlotte Hidrac, bonjour.
Bonjour à vous Pascal Paradou, bonjour à toutes et à tous. À la une, le fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Donald Trump a accusé les deux pays de l'avoir violé ces dernières heures, mais selon lui, la trêve est désormais en vigueur après 12 jours de confrontation. L'Europe de la défense est enfin réveillée, déclaration d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, à l'OTAN, en sommet où les alliés doivent s'engager à muscler leurs dépenses de sécurité. En France, les députés socialistes annoncent le dépôt d'une motion de censure contre François Bayrou, alors que le conclave sur les retraites s'est terminé sur un constat d'échec. Et puis c'est raté pour Loïse Boisson, la joueuse de tennis sensation de Roland-Garros. Elle n'a pas passé les qualifications sur l'herbe du tournoi de Wimbledon au Royaume-Uni. Un cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, puis violé des deux côtés, mais désormais en vigueur, selon le président américain. Voilà le résumé des dernières heures de la crise entre Israël et l'Iran. Les deux pays ont accepté la trêve, tout en se gardant le droit de riposter en cas d'attaque. Après 12 jours de confrontation qui a fait au moins 610 morts en Iran, c'est le dernier bilan avancé par le gouvernement. En Israël, 4 nouveaux décès ont été enregistrés la nuit dernière dans les frappes iraniennes qui ont touché Beersheva, c'est dans le sud, où un immeuble d'habitation a été détruit. Reportage sur place, Nicolas Roca.
Un immeuble d'habitation frappé de plein fouet par un missile balistique. Le cratère béant laisse imaginer la puissance de l'impact. Parmi les 4 personnes mortes, certaines se trouvaient dans des abris sécurisés. Yossi Lando, chef secouriste.
Je peux vous dire que j'ai sorti 3 corps qui se trouvaient tous dans des abris. Une femme âgée a été frappée par une partie du missile et 2 autres personnes étaient aussi dans leurs abris dans la maison d'à côté et ont été tuées.
Le souffle de la déflagration a fait exploser les vitres des immeubles et voitures aux alentours. Meir se trouvait dans son abri à quelques centaines de mètres.
On dormait, 5 heures du matin, on a eu l'alerte et puis tous les vitres sont explosés, les volets, la maison elle a tremblé. Bon, on a sursauté, ça fait peur quand même, hein. Oui bien sûr, ça fait très très peur.
Il se dit usé par la guerre et les frappes incessantes.
Ils nous frappent, nous on rompt, nous on les frappe, eux ils nous rompent. Ça se termine jamais, il faut vraiment respecter le cessez-le-feu et arrêter la guerre.
Beersheva paye un prix lourd depuis le début de la guerre contre l'Iran. Plusieurs impacts ont touché la ville, dont un hôpital. Dans la bande de Gaza, à une trentaine de kilomètres, une grande partie des infrastructures de santé ont été détruites. La défense civile de Gaza a annoncé qu'une cinquantaine de personnes sont mortes ce mardi sous les balles israéliennes en allant chercher de l'aide humanitaire. Nicolas Roca, Beersheva, RFI.
Et le chef de l'opposition israélienne, justement, a appelé à mettre fin également aux opérations à Gaza. Il est temps d'en finir là-bas aussi, écrit Yair Lapid. Message aussi en ce sens des dirigeants français et allemands. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, on l'a compris, reste très précaire, mais il est salué par plusieurs pays, de l'Arabie Saoudite à la Turquie, en passant par la Chine. La Chine qui se présente comme un acteur neutre au Moyen-Orient.
La Chine adopte une posture de médiateur dans la crise entre l'Iran et Israël, tout en affinant sa stratégie d'influence au Moyen-Orient. Officiellement, Pékin appelle au dialogue, au respect du cessez-le-feu et à une solution politique. Mais en arrière-plan, il s'agit aussi pour la Chine de capitaliser sur l'usure du leadership américain dans la région. À l'ONU, Pékin a condamné les frappes américaines contre l'Iran et dénoncé ce qu'elle appelle une logique de puissance qui ne mène qu'au chaos. Dans les médias officiels, les critiques contre Washington sont directes, parfois virulentes. Cette rhétorique bien rodée oppose une Chine présentée comme stabilisatrice à une Amérique perçue comme provocatrice. Mais derrière les mots, il y a les intérêts. La Chine reste l'un des principaux soutiens économiques de l'Iran, notamment en achetant son pétrole. Elle a donc tout à perdre si le détroit d'Ormuz venait à être bloqué. Pékin pourrait exercer une influence discrète sur Téhéran, mais certainement pas sous pression américaine. Sa priorité, défendre ses approvisionnements tout en consolidant son image de puissance responsable. Cléa Broders de Pékin, RFI.
Et le président américain a affirmé que la Chine pouvait continuer à acheter du pétrole à l'Iran. Réaction aussi ces dernières heures de la Russie qui a dit se réjouir d'un cessez-le-feu en espérant qu'il soit durable. Moscou qui dénonce par ailleurs une militarisation effrénée de l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui et demain en sommet, ça se passe à La Haye, aux Pays-Bas, avec un objectif de muscler les dépenses de défense à hauteur de 5% du PIB. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, tout à l'heure à son point de presse quotidien.
C'est une perte de temps. Le fait est que le sommet commence aujourd'hui et l'une des principales missions de ce sommet de l'OTAN, appelons les choses par leur nom, est de créer une alliance pour la confrontation. C'est une alliance qui engendre l'agression et la confrontation. Elle n'est pas un instrument de paix et de stabilité, nous devons en être conscients. Et maintenant, la principale mission de cette alliance, l'une des plus importantes, est de décider d'augmenter les dépenses à 5% du PIB de ses pays membres. L'alliance avance avec assurance sur la voie d'une militarisation effrénée, tout comme l'Europe. Telle est la réalité qui nous entoure et que nous avons en tête. Puisqu'il est nécessaire de faire passer la décision des 5%, il est nécessaire de faire appel à un tel démon, un monstre. Et du point de vue des fonctionnaires de l'OTAN, notre pays est le plus apte à jouer ce rôle.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Autre enjeu de ce sommet de l'OTAN qui débute aux Pays-Bas, le conflit en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est invité. Une rencontre est prévue avec Donald Trump demain, mercredi en principe, alors que l'Ukraine a de nouveau été visée par un bombardement russe meurtrier à Dnipro. C'est dans le centre-est du pays. Au moins 7 personnes ont été tuées ce mardi. En France, François Bayrou tente de reprendre la main sur le dossier des retraites épineux. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui séparément les partenaires sociaux après le constat d'échec hier soir du conclave sur ce dossier entre organisations syndicales et patronales. François Bayrou mis sous pression, là cet après-midi à l'Assemblée nationale, le président du groupe socialiste Boris Vallaud a demandé au chef du gouvernement qu'il s'engage à déposer un projet de loi comprenant la question de l'âge légal de départ à la retraite. Si François Bayrou n'exclut pas un texte, le retour sur le départ à 64 ans ne se pose pas selon lui.
Ma conviction est qu'il existe un chemin qui peut permettre de sortir de cette impasse. Mais je veux vous dire des choses claires, Monsieur Vallaud. Quel que soit le chemin législatif ou réglementaire que nous prendrons, il est pour moi inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier dont nous avons le plus urgent besoin.
Voilà, François Bayrou à l'Assemblée, réponse inacceptable selon Boris Vallaud, qui pousse le Parti Socialiste à ne plus laisser sa chance au gouvernement comme il l'avait fait ces 6 derniers mois.
Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Le Parlement aura-t-il le dernier mot, y compris sur la mesure d'âge et sur l'équilibre de notre système des retraites? Vous ne m'avez pas répondu. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements, pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement.
Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, ambiance électrique, on l'a compris en ce moment dans l'hémicycle. Propos recueillis par Aurélien Devernoy. Le procès en appel de Boualem Sansal en Algérie, le parquet a requis 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien qui a 80 ans, qui est malade. Arrêté en novembre pour des accusations notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire. Il est l'objet d'une bataille diplomatique entre Paris et Alger. La Cour rendra son verdict mardi prochain, donc le 1er juillet. Des perquisitions aujourd'hui dans les locaux de la Banque Société Générale en France et au Luxembourg. Et cela dans le cadre d'une enquête portant notamment sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale. 4 personnes, dont des cadres de la banque, ont été placées en garde à vue. Et le capitaine du 15 de France de rugby pour la tournée en Nouvelle-Zélande sera Gaël Ficou. Le centre du Racing 92 annonce de la fédération qui a publié sa liste pour les 3 matchs prévus en juillet. Plusieurs cadres sont absents à cause de blessures ou pour les préserver d'un calendrier surchargé. Et puis Loïs Boisson, éliminée d'entrée en qualification du tournoi de tennis de Wimbledon au Royaume-Uni. La joueuse française qui avait fait sensation à Roland-Garros. Wimbledon qui prévoit aussi de rendre hommage à Andy Murray, le joueur écossais, double vainqueur du tournoi en érigeant une statue à son effigie. 16h10 ici à Paris, on vous retrouve Caroline Nachowski pour Autour de la question. Très bonne émission.
Merci beaucoup Charlotte Hydrac, à tout de suite.